Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Les Amis d'Orwell. Vous allez avoir une émission en deux parties. La première sur l'état d'urgence et les manifestations donc demain à 14h30, place de la République. Et la deuxième partie, donc ça sera la présentation d'un film, Contre-pouvoir, de Malek Bensmaïl, qui est sorti en salle mercredi. Donc là, je suis avec deux invités, Alain et Nathalie de la CNT
Éducation,
voilà, qui d'ailleurs anime une émission sur Radio Libertaire par ailleurs, le mardi soir, c'est ça ?
Deuxième mardi de chaque mois.
Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont là pour nous parler de cette manifestation de demain, puisqu'ils font partie du collectif Stop État d'Urgence, qui est un des deux collectifs qui appelle à manifester demain.
C'est ça. Alain ?
Oui, c'est tout à fait ça.
Alors parlez-nous de ce collectif et puis comment il s'est créé ?
Eh bien, suite au terribles attentats du 13 novembre. Il y a eu le décret sur l'état d'urgence et une première manifestation de solidarité avec les migrants qui devaient se descendre dans la rue le 22 novembre, hein, c'est ça ? Et donc ce 22 novembre, c'était une manifestation interdite. Malgré tout, les organisateurs de cette manifestation, plusieurs organisations syndicales et politiques et de solidarité avec les migrants, et les migrants eux-mêmes, ont décidé de maintenir un rassemblement. Donc c'était à Bastille et donc aussitôt c'était difficile d'y résister. Il fallait marquer cette solidarité parce que ce qui se passe quand même, ce qui nous est arrivé le 13 novembre, c'est pas sans lien avec ces réfugiés qui sont en France, qui ont fui la guerre. Et donc ça paraissait naturel de partir en manifestation. La manifestation est partie, elle s'est rendue à République et dans la semaine qui a suivi, 58 interpellations ont eu lieu.
Convocation.
Ouais, parce que pas l'interprète.
Convocation au commissariat.
Voilà. Et donc, parmi ces convocations au commissariat, des militants écologistes et des militants de droit au logement. Et c'est comme ça un peu qu'est né en tout cas un des deux collectifs, Stop État d'Urgence, puisque parmi ces convocations au commissariat, il y avait un militant du DAL, du droit au logement. Et donc, réaction un peu collective, c'est inadmissible, le droit de manifester doit être, c'est pas négociable, on doit pouvoir exprimer nos mécontentements, notre solidarité. Et donc, aussitôt s'est mis en place autour du droit au logement, un collectif très large qui renoue aujourd'hui, ça va de la CNT, en passant par Solidaire, en passant par le nouveau parti anticapitaliste, des associations comme Femmes Égalité, Alternatives Libertaires. Donc ça va en fait en gros du droit au logement aux anarchistes avec la coordination générale, coordination des groupes anarchistes, pardon.
Solidaire.
Oui, j'ai déjà dit. La CGT 75. Et puis un certain nombre d'organisations de solidarité avec les quartiers populaires. Il y a le collectif des Sans-Voix, France-Palestine Solidarité. Voilà, un certain nombre d'organisations. On est près d'une quarantaine, une cinquantaine d'organisations qui font vivre ce collectif depuis plusieurs semaines et qui sont quand même à l'origine de la manifestation de demain. Une manifestation parisienne, certes, mais dans plus de 70 grandes villes ou moyennes villes ou petites villes en région, il y aura une manifestation, soit qui partira le matin à 11h, soit l'après-midi à 14h30. Donc c'est vraiment un grand rendez-vous contre l'état d'urgence et contre la déchéance de nationalité qui va rassembler, j'espère, des milliers de personnes demain dans les rues.
Donc du coup, il y a deux collectifs qui appellent à manifester. Alors, qu'est-ce qui vous différencie de l'autre collectif ?
Bah, en fait, l'autre collectif, nous ne céderons pas. Et c'est plutôt organisé autour de la LDH. C'est une dynamique qu'elle a initiée spécifiquement sur l'état d'urgence, mais qui n'était pas reliée à des luttes ou une répression.
Donc on n'a pas dit le nom, c'est nous ne céderons pas, c'est ça ?
Oui, je viens de le dire.
Ah pardon, excuse-moi.
Je viens de le dire trois fois. Donc le collectif nous ne céderons pas a été à l'initiative. Donc c'était un texte au départ que la LDH a fait publier. Enfin, à lancer.
Un texte pétition
qui a très vite réuni des milliers de signatures et au fil du temps, on voit qu'il y a une liste assez impressionnante de signataires, sachant que cet appel-là, les organisations politiques n'ont pas pu le rejoindre, puisque la LDH veut maintenir une forme de neutralité. Et puis, c'est plus une dénonciation de l'état d'urgence en tant que tel. C'est pas à partir de ce qui s'est passé, des mouvements réprimés, des manifs interdites, des migrants. Voilà, c'est pas quelque chose qui est ancré dans la réalité de ce qu'on a vécu, y compris pendant la COP21, les militants écologistes assignés à résidence. Voilà.
Non. Une démarche plus institutionnelle ou dans le sens juridique. Par exemple, la LDH a encore récemment demandé au Conseil d'État de suspendre l'état d'urgence puisqu'il n'y avait pas lieu d'être. Et ils se sont fait...
On pourra refaire peut-être un historique de tout ça. Enfin, je pense que c'est intéressant. Ouais. Et du coup, il y a des groupes, des associations qui sont dans les deux collectifs.
Oui. Tout à fait.
Oui. Oui, parce que finalement, c'est assez proche. À part les organisations politiques qui ont été interdites, entre guillemets, de séjour dans le collectif Nous ne céderons pas, effectivement, on peut se réjouir que, on est aujourd'hui, que ce soit dans le collectif Stop État d'urgence ou dans le collectif Nous ne céderons pas, avec un panel très 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 large d'organisations syndicales, politiques, d'associations, de collectifs. Mais c'est vraiment, on va dire que c'est l'aspect très réjouissant de ce qui se passe. On est vraiment à constater que nous sommes très nombreux à rejeter en fait l'état d'urgence et à être très inquiets en fait de ce qui se passe.
Oui. Les deux collectifs ont publié aujourd'hui un communiqué commun pour appeler à la manif de demain.
Oui, bien sûr. Voilà. Ouais.
En fait, c'est parce que on a été quand même sidérés par ce qui nous est arrivé et il y a eu une multiplication d'initiatives. De collectifs, de groupes, et puis on se retrouve et on est tous demain dans la rue et j'espère qu'on va continuer ensemble, qu'on soit un syndicaliste ou un militant politique.
D'accord, donc est-ce qu'on peut retracer un petit peu cet état d'urgence, expliquer un petit peu d'un point de vue légal, un peu comment ça s'est mis en place
Oui, dès le lendemain des attentats, donc dès le 14 novembre, il y a eu des frappes. Parce que tout le monde ne fait pas le lien entre la guerre et l'état d'urgence qu'on vit ici, mais très clairement, même le juge pour rejeter la requête de la LDH mercredi dernier, donc le 27 janvier, lui a fait le lien entre l'instauration de l'état d'urgence en France et les frappes. Militaires qui ont lieu en Syrie qui se sont intensifiées dès le 14 novembre. Je peux le citer, ce juge qui est déréféré, qui a donc motivé le rejet de la levée de l'état d'urgence comme mercredi dernier, donc le 27. Il dit « La France est toujours engagée dans des opérations militaires extérieures qui visent à frapper les bases à partir desquelles les opérations terroristes sont préparées. » Donc, on voit bien que l'état d'urgence, c'était déjà, tout de suite, organiser des frappes militaires et les intensifier en Syrie. Bon, donc, tu veux m'arrêter, Alain ?
Non, parce qu'en fait, elle posait la question sur qu'est-ce que c'est que l'état d'urgence. Oui. Ça, t'as raison, tu fais le lien avec la guerre. Mais l'état d'urgence, en fait, c'est les pleins pouvoirs au préfet et à la police, sans contrepartie judiciaire, sans le rôle de... Voilà. Et donc, ça veut dire
comment il s'est mis en place cet état d'urgence ? Donc, c'est le...
C'est tout pouvoir au préfet, c'est-à-dire
par décret qui a demandé l'état d'urgence.
Ça, par contre, c'est prévu dans la Constitution. Il y a un maximum de 12 jours. Enfin, il y avait un maximum de 12 jours prévu dans la Constitution d'état d'urgence. Donc, ça pouvait être 2 jours, 3 jours, 5 jours, 7 jours, 8 jours. 11 jours, 12 jours maximum. Et donc, en fait, il n'y a pas eu d'entorse particulière. Les institutions sont prêtes, en fait, à le mettre en place. Donc, ça a été des perquisitions immédiatement diligentées des mosquées, on le sait, des personnes soupçonnées de propager l'islamisme radical. Si vous voulez, il y a un service de renseignement qui a fiché un certain nombre de personnes et hop, très vite, des assignations à résidence et des perquisitions ont été diligentées via les différentes préfectures. Donc ça, c'était pas très compliqué.
Mais en fait, juste pour revenir un petit peu, donc il y a eu ces attentats, le décret présidentiel qui a été validé ensuite par le Congrès, c'est ça ? Donc on a 6 députés seulement qui ont voté contre ?
Oui.
Voilà. Oui. Et puis, donc du coup, ce qui a été voté au Congrès, c'est l'état d'urgence pour 3 mois, c'est ça ?
Oui, en fait. Bon. Comme c'était pas... Voilà, ma vas-y, Alain.
Non. Dans la Constitution actuelle, il y a l'article 16 qui permet au président de la République de décréter l'état d'urgence pour 12 jours. On va faire comme ça plus simple. Et la loi, c'est-à-dire que la loi du 20 novembre 2015, qui a été votée et que seulement 6 députés ont refusé, elle a instauré pour 3 mois cet état d'urgence. Voilà, jusqu'au 26 février.
D'accord.
Et donc l'état d'urgence, après, c'est un certain nombre de mesures qu'on a dit, qui passent du judiciaire à l'administratif, sans, y compris dans les recours au tribunal administratif, sans pouvoir mettre en place, dans cette justice quand même très bourgeoise, d'avoir accès aux documents d'accusation. En fait, c'est l'administration qui dit, voilà, je vous assigne à résidence pour telle raison. Mais l'avocat de la défense dit, mais pourquoi, quelle raison ? Non, c'est supposé dangereux pour... Donc, interdiction de manifester...
Mais il n'y a pas d'avocat. Voilà. Il n'y a pas d'avocat, voilà. Justement. Non, ce n'est pas l'avocat qui dit pour quelle raison. Il n'y a pas d'avocat. C'est-à-dire que la police a tout pouvoir, est diligentée par le préfet. Justement, il n'y a pas d'avocat. Donc, on débarque chez vous en pleine nuit, on perquisitionne, et il n'y a rien à justifier. Donc, par exemple, les perquisitions de nuit, c'est interdit normalement. Ou on va dans des foyers de travailleurs étrangers, et on va chercher les gens chez eux, on les met en centre de rétention. Normalement, c'est interdit, c'est une rafle. Voilà. Donc ça a eu lieu dans le 18e, ce n'est pas une entorse. C'est ce que permet l'état d'urgence, où on ferme les frontières, on fouille les véhicules. Normalement, il faut une commission rogatoire du juge, et là, il n'y a pas besoin, on peut fouiller les véhicules, on peut aller chez vous, on peut vous assigner à résidence, il n'y a rien à motiver. Voilà. On peut vous défoncer votre porte, vous emmener en garde à vue. D'ailleurs, même les droits de la garde à vue sont suspendus. Il n'y a absolument rien à justifier. C'est la police qui vient, qui vous embarque, ou qui vous assigne à résidence, ou qui vous défonce tout. C'est ça, l'état d'urgence. Et d'ailleurs, on n'exagère pas. Il y a vraiment eu des rafles. Il y a vraiment eu des gens qui ont été assignés à résidence pour cause de militantisme. On le sait, pendant la COP21, même si c'est une petite partie, il y a eu 500 assignations à résidence. Et d'ailleurs, elles ne sont pas levées. Il y a eu et sur ces 500 assignations à résidence, il n'y en a eu que 21 qui ont concerné des militants, c'est déjà énormément trop. Donc celles-là, elles ont été levées. Elles ont duré le temps de la COP21, et c'est scandaleux, et c'est inquiétant, et c'est grave. Mais les 480 autres concernent essentiellement la communauté musulmane, vraiment explicitement, et elles continuent de courir. Là, juste aujourd'hui, on a appris qu'enfin, il y a un assigné à résidence dont l'assignation a été levée par le Conseil d'État. Mais sinon, toutes les autres continuent de courir. Il y a des gens... Alors, l'assignation à résidence, c'est costaud. Hein. C'est pas rien. On vous prend vos papiers, vous n'avez plus vos papiers, vous devez aller pointer au commissariat 3 fois par jour, et toutes vos communications sont surveillées. C'est-à-dire toutes vos communications Internet, toutes vos communication. Et si à un moment donné on l'estime, si le préfet ou la police juge nécessaire, on peut y compris vous mettre en centre de rétention. Donc c'est ce qui est arrivé à des militants italiens ou internationaux pendant la COP21, européens, qui se sont vus mettre en centre de rétention après avoir été contrôlés par la police. Donc voilà, c'est ça l'état d'urgence, et c'est ça qu'on vit. Donc 3000 perquisitions pour 3 enquêtes ouvertes pour terrorisme, voilà. Et c'est ça qu'on vit depuis le 14 novembre, très exactement. C'est absolument inefficace sur le plan de la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, encore une fois, c'est le juge qui le dit. Par contre, c'est dévastateur en termes de stigmatisation de toute une population française. et en plus, sur les mouvements sociaux, ça a un effet extrêmement inquiétant. Et d'ailleurs, c'est l'ONU qui s'inquiète et qui le fait savoir à la France. Il y a eu, je crois, en début de semaine, je crois que c'était lundi, un rapport de 4 experts de l'ONU qui a adressé à la France un rapport dans lequel ils s'inquiètent sur la question des droits de l'homme, puisque la formulation de la loi qui a permis l'extension le maintien de l'état d'urgence pendant 3 mois est particulièrement alarmante. C'est-à-dire que les termes sont très flous. Vous voyez, c'est si on a un soupçon, si on estime que... si le préfet estime qu'il y a une possibilité d'avoir un soupçon, que peut-être... Et ça, ce n'est pas l'extrême-gauche ni la CNT qui le disent, ce sont les experts de l'ONU qui s'inquiètent et qui s'alarment pour les droits de l'homme parce que c'est la porte ouverte à tout. Et je termine juste, le syndicat de la magistrature aussi dit explicitement que depuis 3 mois, en fait, nous sommes passés sous un régime autoritaire.
Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'était que ce référé de la Ligue des droits de l'homme ?
Eh bien, en fait, l'état d'urgence devait... Enfin, les 3 mois de la fin de l'état d'urgence devait prendre fin le 26 février. Malgré tout, la LDH a déposé... Donc, justement, dans l'esprit... Il n'est pas levé le 27... Il dépose un référé et pour, si vous voulez, casser... maintenant, c'est le 26 février. Le 26 février. Eh bien, en fait, sans attendre la fin, parce que, en fait, le raisonnement de la Ligue des droits de l'homme et du syndicat de la magistrature repose sur le fait que il n'y aura jamais de raison de lever l'état d'urgence. En fait, voilà. C'est-à-dire que cet état d'exception qui ne devait, dans la Constitution, durer que 12 jours, c'est bien parce qu'on est dans un moment exceptionnel, comme celui, on pourrait dire... Ils n'ont pas forcément remis en cause, vous voyez, nous, à la CNT, on remet en cause l'état d'urgence dès le 14 novembre. On remet l'état d'urgence en cause, voilà. En soi. Mais la Ligue des droits de l'homme, par exemple, ou le syndicat de la magistrature ne remettent pas en cause, n'ont pas remis en cause l'état d'urgence, par exemple, au lendemain des attentats. Voilà. Par contre, ce qu'ils remettent en... Voilà, parce que ça doit répondre à un moment exceptionnel, voilà, dans la vie du pays. Par contre, ce qu'ils remettent vraiment en cause, c'est le fait de prolonger, comme ça, d'avoir prolongé, institutionnalisé, constitutionnalisé, et maintenant de vouloir constitutionnaliser l'état d'urgence, parce qu'en fait, il n'y a aucune raison, après ces 12 jours, de le lever, en fait. Voilà, c'était pour répondre à une attaque, à un machin vraiment grave et tout ça. Là... Ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on... Alors si on, en fait, dans 6 mois, on ne pourra pas dire que la menace terroriste est terminée. Et dans 1 an non plus, on ne pourra pas le dire. Personne ne pourra dire qu'il n'y a plus de menace terroriste en France. Donc, on est en train, très clairement, de glisser dans un état d'exception permanent. Et c'est ça qui est très inquiétant pour les droits humains, notamment, mais aussi pour les mouvements sociaux et pour la liberté d'exercer le culte. Enfin voilà, il y a quand même tout un tas de droits qui sont très menacés.
Oui, en fait, comme la guerre au terrorisme va devenir permanent, il faudra un état d'urgence permanent. En fait, c'est ça qu'ils veulent nous imposer.
Alors du coup, pourquoi l'appel à manifester ? Enfin, on l'attend depuis longtemps, cet appel à manifester. Pourquoi il n'arrive que demain ? Alors je rappelle, la manifestation 14h30, place de la République.
Parce que je pense qu'il y a eu déjà un effet de sidération. Et nous étions ici même, enfin, nous étions particulièrement touchés par ce qui est arrivé. C'est assez... Comme si la guerre arrivait ici, quoi. Et on le voit bien, les témoignages des survivants, ce qui s'est passé aux terrasses des cafés, près du stade de France, c'était impensable. La guerre, c'est des bombes qui tombent sur la tête des gens, et quand ça se passe loin... on n'a pas ce ressenti. Là, ce ressenti est arrivé. Donc, une espèce de sidération, tout à fait... qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces jeunes qui ont été dans nos écoles, ces jeunes Français qui ont été dans nos écoles, ou belges, peu importe, en fait, l'origine... en fait, c'est des gens, c'est des hommes qui se mettent comme ça à tirer sur d'autres... sous prétexte qu'il y a une guerre ailleurs. Donc voilà, sidération. Après, la machine étatique se met en marche. Et donc, on nous cloue le bec avec l'état d'urgence, interdit de manifester. Ensuite, on a beau exprimer un désaccord sur le climat.
Là, juste pour préciser, la manifestation est autorisée, pour le coup.
Non, du 20 jusqu'à...
Oui, demain, elle est autorisée.
Ah, oui, elle est autorisée. Oui, oui, demain. Oui. Ah, demain, elle est autorisée, elle est déposée. Oui. Depuis, on pourrait dire, le 22 novembre, depuis ceux qui l'ont bravé, l'interdiction, les manifestations n'ont pas pu être empêchées en France. Même y compris pendant la COP21, la manifestation du 29 novembre, je suis perdu dans les dates. La clôture de la COP21 s'est quand même terminée par des manifestations dans Paris, et alors que l'état d'urgence était encore décrété, et donc interdiction de manifester, et il y a eu des manifestations. Donc,
c'est-à-dire que le préfet quand même donne l'autorisation de
manifester ? Non, je pense que la force, la dissuasion, je pense qu'en fait, tout le monde n'écoute pas TF1, en fait, heureusement, et tout le monde n'écoute pas le Premier ministre, et qu'il y a des gens qui disent non, on veut manifester. Il y a eu un certain nombre d'appels d'intellectuels.
En fait, l'interdiction de manifester, c'est une mesure qui est prise par le préfet. Donc, c'est pas dans toutes les villes en France, quoi.
Ça ils ont à un moment donné, ça a été deux poids deux mesures. Mais en fait, c'est ce que disait Nathalie très 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 précisément, c'est que l'état d'urgence étant sous la responsabilité, la mise en place d'un préfet. Il y a des préfets qui ont fait des excès de zèle. Hein. On a des familles, des enfants qui ont des portes, des appartements qui ont été complètement détruits parce que les policiers sont arrivés manu militari pour faire une perquisition. Donc il y en a qui ont profité pour que des agriculteurs bio ont été assignés à résidence, ont subi des perquisitions parce que ils avaient manifesté un jour, donc les préfets ont réglé des comptes.
Notre-Dame-des-Landes.
Voilà, Notre-Dame-des-Landes. Mmh. Voilà, c'est des abus comme ça. Et voilà.
Oui, je voulais juste dire pourquoi si tard. Ben en fait, je pense qu'il y a eu vraiment un état de sidération. Enfin, faut vraiment. Ça, on a tous été complètement anéantis par ce qui se passait. Et après, c'est pas sans mal. C'est-à-dire que il y a eu la COP21. C'est-à-dire que l'état d'urgence, finalement, on voit bien si on retrace. Merci pour la question. A empêché très clairement. À empêcher l'expression d'une opposition aux mesures qu'on nous imposait. C'est très net. Donc ça a pris beaucoup de temps avant que les gens on se remette en marche et tout ça. Donc oui, on a manifesté tout de suite le 22 novembre, oui, on a, mais c'était très à la marge, et ce qui a dominé, c'était c'est dangereux, on n'a pas le droit, c'est interdit. Voilà, c'est ça l'état d'urgence, c'est que ça a complètement sidéré, c'est-à-dire cloué le bec, comme dit Alain, hein, interdit toute possibilité d'exprimer largement une opposition politique.
Donc là, il ne nous reste plus beaucoup de temps, parce qu'on doit entamer ensuite la deuxième partie. Ouais. Mais donc, du coup, il y a une échéance, le 3 février. Oui. Donc le gouvernement qui doit présenter au Conseil des ministres un projet de loi pour prolonger l'état d'urgence de 3 mois. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'est un projet de loi constitutionnel, et et c'est dans ce cadre-là qu'on trouve aussi la déchéance de la nationalité.
Alors, c'est pas tout à fait la même
chose. Non, expliquez-nous alors.
Oui, voilà. Le 3 février, il va y avoir une loi criminalité qui va être présentée.
Voilà. C'est que le gouvernement, pas très sûr d'avoir les 3/5 de la majorité pour aller vite sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence et la déchéance de nationalité, avait a proposé, et c'est Le Monde qui l'a révélé, puisque on attend la semaine prochaine au Conseil des ministres pour avoir le contenu exact de la loi, ils vont présenter le 3 février un projet de loi, je cite, renforçant la lutte contre la criminalité organisée et son financement, l'efficacité, les garanties de la procédure pénale. Ça, c'est le titre de la loi. Et là, ça va être l'état d'urgence permanent. Il n'y aura même pas besoin de réécrire la Constitution. C'est effectivement des perquisitions de nuit, y compris chez l'habitant, des contrôles d'identité, des fouilles, des saisies d'objets sans intervention pénale, c'est de la garde à vue prolongée de 4 heures sans droit, là, les flics qui vont pouvoir porter leurs armes nuit et jour et pouvoir tirer sans justifier de la légitime défense. Ça va être des assignations à résidence. Bon, voilà. Donc c'est ça en gros que a révélé Le Monde il y a quelques jours maintenant, une semaine ou deux. Et donc ce projet de loi va être soumis le 3 février. En même temps, il est question...
Oui, donc
de réécrire la Constitution,
oui,
et de soumettre un projet de loi.
Parce que le projet de loi constitutionnel, il n'a pas besoin de passer devant le Congrès pour être voté. Enfin, je sais pas,
c'est d'abord le Parlement, c'est comme tous les projets de loi. C'est d'abord le Parlement, ensuite le Sénat, le Parlement, et voilà.
Parce que quand on modifie la Constitution, normalement, c'est devant le Congrès.
Oui, non, mais là...
Non, mais là, ça ne serait pas une modification.
Non, ça ne serait pas une modification de Constitution. Là, le 3 février, il y a la présentation d'un projet de loi renforçant... contre la criminalité organisée. Voilà, on va l'appeler comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein, et donc, et par contre, le projet de réforme de la Constitution, lui, il a un titre particulier qui s'appelle Protection de la Nation. Et il commencera à être débattu dans les deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat, le 9 février. Hein. Mais peut-être que l'avant-projet, en gros, le contenu de ce texte est forcément soumis au Conseil des ministres, quand même. Valls et son complice à l'Élysée, Hollande, bon, quand même, ils font un petit peu. Ils informent leurs ministres. Enfin, on voit bien comment ils peuvent les informer, parce que la ministre de la Justice, Mme Taubira, n'est peut-être pas forcément informée, on l'a vu, quand il s'agissait d'annoncer la déchéance de nationalité.
D'accord, donc. Demain,
on n'a pas dit de mots. Je pensais que c'était important aussi. Après les rafles, les perquisitions, les assignations à résidence, la fermeture des frontières pendant la COP21, même si c'était prévu avant, a été renforcée et étendue pendant la COP21. On a quand même eu une condamnation très lourde pour syndicalisme, en fait, hein, avec les camarades de Goodyear. Et tout ça, finalement... sous état d'urgence. Enfin, je pense que ça va être, je pense, assez énorme demain. Et il va y avoir beaucoup de cortèges et dans beaucoup de villes. Et c'est en urgence.
Il y a une carte sur le
villes.
Site,
oui,
hein, c'est ça.
Oui. Donc sur Stop État d'urgence, on peut avoir tous les rendez-vous sur le site Stop État d'urgence, tous les rendez-vous ville par ville. Mais c'est parce qu'il y a une réelle inquiétude qui peut enfin s'exprimer, et c'est sûr qu'il va y avoir, enfin nous par exemple on a décliné aussi à Montreuil, puisqu'on habite à Montreuil, le collectif Stop État d'urgence, on est très clair que on va continuer après la manif de demain, enfin que c'est, tout le monde est très inquiet, on est très inquiet, y compris des projets armés, éducation nationale qui sont anciens, mais qui là prennent c'est très concret. Là, en ce moment, à Paris, par exemple, on est quand même nombreux à aller travailler en passant entre deux militaires en armes. Moi, à mon école, c'était ça pendant 2 jours cette semaine. On avait 2 militaires postés de chaque côté de la porte pour aller rejoindre notre poste. Et donc, tous les enfants ont franchi. Voilà. Donc, c'est quand même. Enfin, là, c'est. Enfin, non, c'est plus possible. Enfin, ça va pas du tout. C'est très, très grave, en fait. On est hyper inquiet. Et donc. Demain, c'est enfin une opposition politique large qui va pouvoir se faire jour. Et ensuite, il va y avoir à nouveau des rendez-vous, que ce soit sur les différents rendez-vous institutionnels, mais aussi de l'organisation de débats, pour que il faut absolument pas qu'on laisse l'état d'urgence permanent là. C'est
alors,
pas possible.
J'ai cru lire que la police attendait à Paris 3 à 6 000 personnes. On espère qu'il y aura plus de monde.
Non, mais là, la police, elle se trompe toujours sur les chiffres. Hein. Elles font exprès. Et bien évidemment, les médias ne relaient pas. Hein. Quand on regarde les médias ce soir en ligne, personne, que ce soit Le Monde, Libération ou d'autres, ne cite...
Je crois que je l'ai entendu quand même sur France Culture.
Ah, bah alors l'annonce. France Culture, ça nous étonne, mais pourquoi pas. Personne n'annonce... quand il s'agit d'annoncer, il y a un an, pour après les attentats contre Charlie, tous les médias reprenaient manifestation dimanche 11 janvier. Donc là, franchement, on voit bien que sur la question de l'état d'urgence et la déchéance de nationalité, les patrons de presse et la radio publique ou la presse publique hésitent un peu. Hein. Il faut vraiment crier pour dire que demain, samedi 30 janvier, à Paris, c'est à 14h30 République, et dans toutes les autres villes, c'est soit le matin, soit l'après-midi, mais c'est généralement autour de 14h30.
Donc là, je vous propose d'écouter un morceau de musique, et après, on présentera en quelques minutes donc la deuxième partie pour le film Contre-pouvoir. On parlera justement de presse.
Ne cherche pas à m'imposer toutes tes lois, n'en essaie pas. Je te le dis, tu n'y arriveras pas. Ne m'en veux pas si parfois je ne t'écoute pas, mais j'ai le droit. Que toi.